Je vais continuer le message sur le croyant et l'humanisme moderne. On l'appelle aussi l'humanisme séculier. Ça va venir. On avait parlé lors de ma dernière prédication, première partie, deuxième partie aujourd'hui. Ah, elle vient d'apparaître. Et il y a un monsieur qui s'appelle Joshua Harris, qui est un prédicateur américain, un homme dans la quarantaine, et... Dans un livre qu'il écrit, il disait, des fois, lorsqu'il préparait sa prédication, au lieu de rester dans son bureau, il s'en allait dans un café, là, genre Starbucks, puis il se mettait dans un coin tranquille, puis il faisait ses choses. Puis, là où il était, habituellement, il y avait une espèce de vitrine, et les gens qui passaient devant la vitrine ne le voyaient pas lui, mais les gens se voyaient. Ça fait que, surtout les filles, quand ils passaient devant la vitrine, ils checkaient la perruque ou la toupette. Les gars aussi, ils sortaient le peigne. Puis c'était drôle que moi j'étais là, c'était une vite, il était supposé de me voir, mais il me voyait pas. Et ça me faisait penser à nous, quand on regarde, ou l'homme ordinaire qui regarde sa vie, il ne voit pas Dieu, il se voit lui-même. Et au lieu de voir Dieu qui existe dans les merveilles de la création, nous crie que Dieu existe, on ne le voit pas. Ce qu'on voit, c'est le reflet de l'homme. Et l'homme ajuste sa vie en fonction de ses propres standards, ses propres valeurs, au lieu de le faire en fonction de ceux de Dieu, donc en fonction de sa propre conception du bien et du mal. Je vais faire un bref résumé du premier message. Ah, justement ça, on voit quelqu'un qui se reflète dans le... C'est pas un miroir, c'est une vitre, vous voyez. Donc, le mot d'ordre de l'humanisme, c'est... L'homme est la mesure de toute chose. C'est le philosophe Platon qui avait cité ça. L'homme est en premier. Dieu n'existe pas. Donc, l'idéologie de l'humanisme séculier, c'est de rejeter Dieu et de le remplacer par l'homme. Dieu est mort et l'homme est au centre. Et ça, c'est l'association américaine. On a aussi une association humaniste du Québec. Ce sont des choses que j'ai montrées la dernière fois, mais je les ramène quand même pour juste se remettre dans le bain. Ceux qui ont dormi, ben ça va voir qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois. Ceux qui n'étaient pas là, ben ça va vous mettre dans le bain. Et on voit que les humanistes au Québec, la voix des athées, c'est des gens qui croient pas en Dieu, et les agnostiques, ça veut dire ceux qui disent on le sait pas, on peut pas savoir, Dieu n'existe pas. Ok. Au lieu d'être la voix de ceux qui ont besoin d'aide, ceux qui humainement parlant ont besoin d'être soutenus. C'est un drôle de slogan. Donc l'humanisme moderne est une idéologie acceptée par la majorité des gens aujourd'hui, inconsciemment. Et c'est une tentative humaine de résoudre les problèmes de l'humanité sans Dieu. Et il y a aussi une propagande anti-religion qui se fait. On voit, on peut être bon sans Dieu. On peut être bon sans Dieu. Donc, Dieu n'est pas nécessaire. OK? L'homme est au centre. Donc, c'est une médaille qui a deux faces. Dans le sens, le bon côté de la médaille, c'est que ça vise le développement du potentiel humain et le bien-être de l'homme. Ça désire instaurer une société idéale. Et Jésus était, on pourrait dire aussi, un humaniste dans le sens qu'il désire, ou est un humaniste dans le sens qu'il désire le bonheur de l'être humain qu'il a créé. Okay? Mais le mauvais côté de la médaille, c'est qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? C'est qu'on prône que la religion, la spiritualité, nuit à l'épanouissement de l'homme. Ici encore, des millions sont bons sans Dieu, une propagande publicitaire. Donc, c'est une propagande qui est agressive et que depuis 30, 40 ans même, les élèves dans les écoles sont visés par cela et ça va en augmentant. Donc, le côté de la médaille, c'est ça, c'est que l'humanisme séculier rejette Dieu et sa souveraineté et le remplace par l'homme, qui devient le seul maître de sa destinée. Et je vais vous citer un verset dans Colossiens, chapitre 2, verset 8. Et c'est un peu le but de mon message ce matin. Paul commence, il dit, « Prenez garde que personne ne fasse vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. » Dans le sens que... c'est une position philosophique, une vaine tromperie, ce sont des faussetés, ça vient des hommes, mais l'apôtre Paul nous incite à nous mettre en garde contre ça, donc c'est le but ce matin. Donc, par une vaine tromperie selon la tradition des hommes. selon les principes élémentaires du monde et non selon Christ. Donc, la base de cette philosophie-là n'est bien des hommes, tradition des hommes, et non selon Christ. Le genre de message que je donne ce matin, c'est pas le genre de message que j'aime donner. C'est drôle un peu, là. Dans le sens que je suis contre, je vais vous parler, je vais dénoncer une philosophie, alors qu'habituellement, j'aime être plus positif, vous parler de relation avec Jésus, tout le bien qu'on a en lui, toute sa grandeur, son immensité. Sauf que c'est là que me mettait à cœur de parler de ces choses-là, parce que ce sont des choses qui sont vraies, qui sont là, qu'on vit dans cette société-là, et qu'on le veuille ou non, on est influencé comme croyant par tout cela. Et quand on voit des choses qui se passent, ah, c'est à cause du mouvement humaniste qui est là depuis, mouvement séculier depuis au moins 50 ans, là, on croit qu'il existe depuis l'Antiquité, mais il est de plus en plus fort, ce mouvement-là. Donc, je ne veux pas sembler trop négatif, mais on doit avertir les gens. Et il y a un autre verset que Jésus nous avait donné. Quand les gens ont remarqué le temple, puis Jésus a dit, oui, c'est beau, mais pas pierre sur pierre qui va rester. Fait que les disciples ont dit, c'est quand ça va arriver, c'est quand ça va être la fin du monde. Et voici le verset. Jésus, Matthieu 24, verset 3 et 4, il s'assit sur le mont des Oliviers, et les disciples vinrent en privé lui dire, « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » C'est quoi, là? On veut savoir qu'est-ce qui va se passer avant la fin du monde. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit la première chose? Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Ça veut dire que plus on s'approche de la fin, plus il va y avoir une puissance de séduction qui va être là et qui est aujourd'hui beaucoup plus grande que dans le passé. Et la séduction, on s'en rend pas compte. C'est ça c'est ça de la séduction. C'est quelque chose qui arrive, c'est insidieux, on s'en rend pas compte, c'est inconscient, on est séduit, nos mentalités sont changées, on réalise pas qu'on pense différemment. Donc, c'est ça une séduction. On se fait duper, tromper par des choses qu'on nous dit, ah, c'est vrai, ça a du bon sens, humainement parlant, ça a bien de l'allure. C'est correct de croire à ça. Et on va voir quelques exemples tantôt. On a vu qu'il y avait trois conséquences qui découlent du rejet de Dieu. La première, c'est la guerre contre le christianisme. On l'a vu la dernière fois. Guerre qui se tient aussi sur les classes d'école, guerre dans les lieux publics où on enlève tout ce qui représente Dieu ou la religion. Et ce matin, nous allons voir les deux autres conséquences, qui est la recherche du bonheur sur terre. Donc, si Dieu n'est pas là, il faut être heureux ici, parce qu'après, il n'y a plus rien. Et du deuxième va découler automatiquement la troisième. Si on veut le bonheur et Dieu n'est plus là, il y a l'immoralité. Donc, si vous voulez, on va avoir un mot de prière avant d'aller au deuxième point, qui va être la recherche du bonheur sur terre. Notre Dieu, on veut te remercier pour ta parole qui est un guide solide, Seigneur, sur lequel on peut s'appuyer. Et merci, notre Dieu, de nous avoir appelés à toi, de nous avoir saisis, de nous avoir conduits à Jésus-Christ, celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et en lui, lorsqu'on est venu à lui, nos yeux, les yeux de notre intelligence se sont éclairés. Nous avons compris, Seigneur, notre perdition, notre besoin de salut. Nous avons réalisé que la Bible était écrite pour nous. Et lorsque nous lisons, c'est comme une lettre d'amour que nous lisons, une lettre d'avertissement, une lettre qui nous révèle combien tu es grand, combien tu es bon. Et notre Dieu, ce matin, on veut plonger les regards dans cette Écriture-là, dans ta parole, pour discerner le bien du mal, pour discerner ce qui serait faux, le faux du vrai. Et on s'attend à toi ce matin, notre Dieu, et on le prie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Donc, la recherche du bonheur sur terre. Depuis la chute, l'homme cherche le bonheur. Parce que Dieu l'a créé, comme j'ai déjà dit, pour être heureux dans un paradis parfait. Sauf que l'homme n'a pas obéi, l'homme et la femme, t'es pas tout seul, n'a pas obéi et il s'est attiré une malédiction. Dieu lui avait dit, oh, si tu manges du fruit de l'arbre défendu, la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Et quand ils l'ont fait, il y a eu une malédiction. Et ça, c'est passé au début de Genèse. Depuis ce temps-là, l'homme cherche à recréer le bonheur, à être heureux et tout ça. Sauf que le vrai bonheur nous est redonné à la fin de l'Apocalypse. L'avant-dernier chapitre de l'Apocalypse, on voit les nouveaux cieux, nouvelle terre qui arrivent. Donc, le paradis perdu au début de la Genèse est retrouvé à la fin de l'Apocalypse. Dieu ferme vraiment la boucle. Mais entre les deux, il a envoyé son Fils, il a eu la loi, ensuite son Fils, la grâce, il y a l'Église, et actuellement on est là, l'Église. Le Seigneur nous donne une vie chrétienne victorieuse, mais on marche sur les traces de Jésus, faut pas l'oublier. Et ça ne veut pas dire que comme chrétien, ça va toujours être facile. Mais l'homme sans Dieu dit c'est le bonheur qu'il faut avoir. Et les spécialistes de la publicité exploitent ça, le bonheur. J'en ai déjà parlé. Ils font miroiter des illusions de bonheur pour nous vendre des produits. Comme si vous voyez une annonce d'automobile, des fois, on ne parle même pas de la caractéristique, mais on voit l'automobile sur le bord de la mer, dans les montagnes, en campagne. C'est beau. Beau gars, belle fille, jeune, les deux. Puis si tu regardes les annonces de bière, ils sont tous jeunes, ils ont du plaisir, ils sont pas en train de désintoxiquer, puis l'homme qui crie après sa femme parce qu'il est en boisson, tu vois pas ça. Donc, ils nous montrent le bonheur pour nous vendre. Et quand tu regardes tout ça, tu dis, hey, il faut être heureux. Mais c'est vrai, moi, je suis pas heureux. Mais c'est vrai que, parce qu'il y a toujours des choses dans notre vie, hein. Je sais pas s'il y en a qui sont sans problème ici, là. Je ne voudrais pas lever la main, ça lèvera pas beaucoup. On a tous nos problèmes, nos défis. Donc, la priorité numéro un de l'homme aujourd'hui, c'est son épanouissement personnel et son plaisir, parce que son espérance ne vient pas de Dieu, sa joie ne vient pas de Dieu, et son but, c'est qu'il se sente bien. Et peu importe si ce que je fais semble déraisonnable, la chose, elle est bonne si elle me plaît, si elle me convient, si elle me fait chaud au cœur, c'est correct. Oh! Donc, il n'y a plus de concept de bien et de mal ici. Si ça me fait du bien, c'est correct. Ici, on a Alfred Kuhn, dans son livre « Les défis de la postmodernité », il nous dit « Tout gravite maintenant autour de l'homme, ce qu'on appelle l'humanisme. » C'est pas compliqué, l'humanisme. Tout gravite autour de l'homme au lieu de graviter autour de Dieu. « Et comme je suis non éternel, il faut que j'accomplisse mon bonheur ici et maintenant par tous les moyens. » Étant donné que cette vie est passagère, et on l'entend souvent, la vie est tellement courte, faut en profiter. OK? La vie est courte, faut en profiter. Donc, il faut que ce soit maintenant que j'en profite, parce qu'après ça, il n'y a plus rien. OK? Aujourd'hui, je veux jouir de la vie, je veux éviter de souffrir, qu'importe les engagements du passé ou les conséquences du futur. C'est le présent devient tout ce qui importe pour l'homme séculier. Je vous donne un exemple. Un homme marié qui trouve une autre partenaire qui, avec qui il est plus heureux, il semble mieux convenir à ses besoins, va laisser son épouse. Donc, il va laisser renier ses engagements du passé pour profiter du présent. Il va renier aussi les conséquences futures pour sa femme et ses enfants. Mais c'est tout de suite que ça compte. Il faut que je sois heureux parce que ça reviendra pas, ça. Okay? Même chose. Le gars célibataire qui rencontre une jeune fille, pourquoi est-ce qu'on se marierait? Pourquoi s'engager? Aujourd'hui, c'est elle avec qui je suis bien. Peut-être demain, ce sera une autre. Pourquoi m'engager? Ou pourquoi attendre d'être marié pour avoir des relations sexuelles? Pensons au présent. Puis pas d'engagement. Donc, notre culture nous inculque comme valeur fondamentale qu'on doit être heureux. Par conséquent, il est facile de rompre nos engagements envers notre épouse, envers l'épouse, envers quelqu'un, avec des amis aussi. On est des grands amis, mais il y a quand même une petite affaire. Oh non, je te tasse. Quelqu'un disait, au travail, on peut pas toujours tasser les gens parce qu'on vit avec eux 8 heures par jour. Et il y a des amis qu'on peut dire, eux, on ne m'en donne pas avec, on peut les éviter. Mais on peut pas faire ça dans notre vie de couple. On est toujours ensemble. Donc, faut apprendre à vivre ensemble. Et on est heureux dans notre vie de couple en autant que chacun donne 100%. Et ça va marcher comme ça, là. Le présent est important dans le sens qu'il prépare l'éternité. C'est là qu'il est important. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas jouer ou profiter du moment présent. Et il ne faut pas toujours dire « Ah, moi j'ai hâte de le futur, je regrette le passé. » Non, profitons du moment présent, mais sainement. Le monsieur Quinn, dans le même livre, « Défi de la postmodernité », disait qu'il y a eu une enquête qui a montré que, probablement aux États-Unis, la moitié des évangéliques sont d'accord avec la proposition suivante. Le but de la vie est la jouissance et la réalisation personnelle. Quelque chose, hein? Donc, le but de la vie serait la jouissance et la réalisation personnelle par des gens qui se disent croyants. Avant ma conversion, moi, j'aurais aimé que la Bible soit pas vraie, parce que j'aurais aimé vivre ma vie comme je voulais, profiter de la vie. Mais dans le fond, c'est mieux que la Bible soit vraie, parce qu'elle m'assure la vie éternelle et elle m'a permis de connaître Jésus, mon Sauveur, mon Seigneur. Quelques applications pour le croyant. Donc, à quel point ça peut m'influencer comme croyant? Puisque dans ma société, on dit que l'homme doit être heureux et libre de toute contrainte, donc j'aurais tendance, vu que je suis influencé par cela, à dire « Dieu existe pour moi, pour me rendre heureux et répondre à mes besoins. » Parce que c'est ça la mouvance populaire. Je dois être heureux, donc Dieu est là. Dieu existe pour moi. OK? On sait que Dieu est là totalement pour nous, qui est notre sauveur, notre abri, notre réconfort. Mais on insiste beaucoup là-dessus, c'est bon. Mais est-ce qu'on insiste sur le fait qu'il est aussi mon Seigneur et mon Maître, le souverain, le contrôle sur ma vie? Et moi, je suis le premier à prêcher que Jésus est mon rocher, mon abri, et j'en ai vraiment besoin de ça, que ce soit mon abri, parce qu'on est constamment en danger. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est peut-être inconsciemment porté à trop penser ce que Dieu nous apporte, au lieu de dire, c'est pas Dieu qui existe pour moi, mais c'est moi qui existe pour Dieu. On peut prendre tout ce qu'il nous donne, mais oublier de se soumettre. Et si on se soumet, puis Jésus est vraiment notre Seigneur, notre Maître, automatiquement, il va devenir notre rocher, notre abri, ça va aller de soi. Ensuite, si le but de la vie, c'est d'être heureux, mais je comprends pas pourquoi Dieu permet que je souffre. Combien de gens disent « Dieu n'existe pas parce que je souffre » Parce que, dans le fond, je devrais être heureux. Et si je souffre, s'il y a de la misère dans le monde, ça prouve que Dieu n'existe pas. Donc, ça nous fait douter de la bonté et de l'amour de Dieu, même comme croyant. Même comme croyant. Dieu doit me rendre heureux. Dieu doit répondre à mes besoins et mon Église doit répondre à mes besoins. Oups, on se rapproche de nous autres. Mon Église doit répondre à mes besoins. Et si mon Église ne répond pas à mes besoins, ça crée de l'insatisfaction. Et je peux porter à me plaindre, vouloir changer d'Église et des choses comme ça. Donc, l'Église n'existe pas juste pour moi. Je suis j'existe aussi pour l'Église. Et je comprends qu'au début, comme jeune croyant, on est comme un enfant qui a besoin de ses parents. Alors, on mange la nourriture, on a besoin des autres, on est dépendant des autres au début. Mais avec le temps, l'adolescence, l'âge adulte, on devient, à ce moment-là, le Seigneur nous demande pas juste prendre, mais donner. Donc, l'Église, des fois, on dit, je vais pas là, ça m'apporte rien. Je vais chez nous, ça m'apporte rien. Mais est-ce que toi, tu peux apporter quelque chose aux autres? Juste le fait d'être présent là, tu apportes déjà quelque chose aux autres. Donc, c'est important. Dieu a créé l'Église locale, c'est dans son plan. Et participons. Aussi, puisque je dois être heureux et libre de toute contrainte, je vais hésiter à m'impliquer pour le Seigneur et à m'engager à long terme dans mon Église. Et vous avez sans doute déjà entendu ça, toutes les mêmes qui font toutes, il y en a qui s'engagent pas. Bon, il y a une tendance à ne pas vouloir s'engager à long terme dans tous les niveaux de la société, et ça se reflète dans l'Église. Je ne veux pas mettre de nom ici, mais je voulais juste que vous sachiez qu'on peut avoir cette tendance-là à dire « Ah, non, il ne faut pas que je me crée d'obligation, je veux être pris, je ne pourrais plus faire telle chose, je vais devoir renoncer à telle chose. Si je m'engage, Si je m'engage pour le Seigneur, c'est sûr qu'il y a des choses à lesquelles je vais devoir renoncer. Et un verset ici d'encouragement. Je vais revenir. Que chacun de vous, au lieu, dans Philippiens 2, 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc, au lieu de penser à soi, qu'est-ce que l'Église m'apporte, mais qu'est-ce que moi je peux apporter aux autres dans l'Église. L'Église, c'est pas le bâtiment, ce sont des frères, des sœurs, des gens avec qui que je côtoie. Je vais revenir à celle que j'ai passée, là. C'est quand je parlais de l'engagement tantôt, là, dans le psaume 15, verset 4, ça dit quelqu'un, l'homme intègre, là, il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice. Donc, quelqu'un qui s'est engagé, il ne se rétracte pas. On parle ici du juste, dans le psaume 15. Donc, Philippiens. Une citation ici de M. Michael Hamlet. C'est un spécialiste en counseling biblique qui a écrit un livre, Contact entre la Bible et mon histoire. C'est un, lui, dans le ministère. Donc, on parle qu'on veut pas trop s'engager, que c'est difficile et qu'on voudrait avoir une vie facile. Lui, il dit, « Nous suivons les traces du Sauveur qui s'est sacrifié lui-même. » Donc, Jésus veut qu'on soit ses disciples. « Suivez-moi. » Puis moi, oups, puis il est allé jusqu'à la croix. Mais heureusement, ça n'a pas fini là. Il est ressuscité et il est dans la gloire actuellement. Donc, le Seigneur nous invite à le suivre comme sauveur, mais un sauveur qui s'est sacrifié lui-même. C'est pour ça que les disciples, à un moment donné, ne suivaient plus, là. Seigneur, nous, on serait prêts à y aller avec l'épée, mais toi, c'est pas l'épée, là, tu te laisses bafouer. On comprend pas ton affaire, là. Donc, on suit les traces d'un sauveur qui s'est sacrifié lui-même. Cette vision du Christ nous aide à persévérer dans les tribulations du ministère. Donc, même si c'est difficile, on dit, ah, mais ça se fait, Dieu. Pourquoi c'est dur? C'est pas normal. Non. On suit un Christ qui s'est sacrifié. Ensuite, cette vision aussi, elle nous donne une vision réaliste de la vie chrétienne qui se déroule devant nos yeux et devant les autres. Surtout lorsque nous sommes tentés de penser que la vie en Christ a pour but notre épanouissement et notre bonheur. Lui, il avait vu ça aussi, qu'on est porté à penser que la vie en Christ, c'est notre épanouissement et notre bonheur. Oui, on va l'avoir. On va être plus épanoui, on va être plus heureux. Moi, je suis plus épanoui, plus heureux depuis que je connais Jésus. Mais c'est pas le but. Le but, c'est de le connaître, lui, vraiment. Et ça, ce sont des accessoires. Donc, c'est pas mon épanouissement et mon bonheur le but, mais c'est de connaître Jésus-Christ et de le suivre. Faire la volonté de Dieu ne nous donne pas toujours le bonheur immédiat. Mais on apprend à travers la souffrance et c'est à travers les épreuves qu'on grandit spirituellement. Les épreuves, on ne voudrait pas en avoir, mais un coup qu'on en est sorti, ah, ben merci Seigneur, ça m'a fait grandir, j'ai réalisé telle affaire, je comprends telle personne, je suis moins porté à juger maintenant que j'ai vu que ça, j'ai eu telle la misère avec telle chose. Okay? Faut pas oublier que les détresses du temps présent sont temporaires et passagères. Okay? Et ce qui compte actuellement, c'est que Dieu soit glorifié. Et comme j'ai déjà dit, Dieu ne regarde pas, il ne veut pas nous sortir de l'épreuve tout de suite, mais il veut voir comment on va réagir, il veut nous transformer dans l'épreuve. On chante des fois le feu du fondeur, je n'ai qu'un désir, être saint. Quand je chante ça, moi là, feu du fondeur, c'est-à-dire, envoie-moi l'épreuve. OK? Ensuite, troisième chose qui en découle, c'est du rejet de Dieu, c'est l'immoralité. Donc, on a vu que la deuxième, première guerre contre le christianisme, deuxième recherche du bonheur sur terre, et en découle, naturellement, l'immoralité. Nous allons regarder un verset dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 4. « Sache que dans les derniers temps, on est rendu pas mal là dans les derniers temps, si c'est pas ça, ben on n'est pas loin. OK? On n'a jamais vu autant de nouvelles choses qu'aujourd'hui, ça va tellement vite. Donc, sache que dans les derniers temps, surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, etc. Je ne les lirai pas toutes. C'est toute une liste de mauvais comportements. Et j'attire votre attention sur ce qui est souligné en bas. Aimant leur plaisir plus que Dieu. Donc, toutes ces choses, tous les péchés qu'on a là, les mauvais comportements, la source, c'est qu'on aime le plaisir plus que Dieu. Okay? Donc, notre plaisir, l'homme, son plaisir passe avant la personne de Dieu. Donc, découle tout cela dans les derniers temps. Et on ne s'en rend pas compte parce qu'on est rendu là. Mais ça recule 40 ans en arrière, là. Les gens avaient un certain respect de Dieu, une certaine crainte de Dieu. Aujourd'hui, c'était plus ça va, plus ça se perd. Et le verset que nous connaissons, en Corinthiens, chapitre 15, verset 32, « Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Ça veut dire que donc, Dieu n'existe pas, les morts ne ressuscitent pas, il n'y a pas de vie éternelle, mais moi, je serai le premier à dire, hey, « Profitons-en, allons-nous-en tout de suite. Hein? Que je fais ici, si les morts ne ressuscitent pas? J'ai 70 ans, 75 ans à vivre, il faut que j'en profite au maximum, puis il n'y a pas de Dieu. » Puis c'est mon bonheur qui est important, pour que j'en profite, pour que je jouisse de la vie. Et Paul disait, si les morts ne ressuscitent pas, c'est ça, c'est vrai, mais les morts ressuscitent. C'est la bonne nouvelle. Donc, mangeons et buvons, mais sainement. Hein? Et mangeons et buvons, ici, c'était, il parlait plutôt de beuverie. Donc, si Dieu n'existe pas, tout se termine avec la mort physique. Aussi, on l'a vu, étant donné qu'on rejette Dieu et que l'homme est la mesure de toute chose, on décide par nous-mêmes de ce qui est bien et ce qui est mal, d'où l'immoralité. Et on a vu le verset la dernière fois, on va le lire encore, dans Genèse chapitre 3, versets 4 et 5, deux versets. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas du tout, parce que Dieu leur avait dit, si vous mangez du fruit, la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir. » Verset 5, « Mais Dieu sait que... » Dieu, il vous dit pas la vérité, là. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal, et on peut traduire aussi, choisissant vous-même ce qui est bien de ce qui est mal. C'est vous qui allez être capable de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est plus Dieu qui va décider. Dieu ne sera plus la norme. C'est vous. OK? Un philosophe, Friedrich Nietzsche, dit « Puisque Dieu est mort, je n'ai pas de compte à rendre à personne, je peux tout me permettre par tous les moyens. » La fin justifie les moyens. Donc, Dieu est mort, je n'ai pas de compte à rendre à personne. Mais si on y va le contraire, puisque Dieu est vivant, j'aurai des comptes à rendre. C'est ça la réalité. Mais si tu crois que Dieu est mort, n'existe pas, tu n'as aucun compte à rendre. Tu peux tout te permettre. Donc, les actions ne sont pas nécessairement bonnes ou mauvaises. Il n'y a pas de bien ou de mal. C'est seulement les conséquences qu'on doit juger. Le comportement est juste si ça fait du bien. Si c'est bénéfique. Je vous donne un exemple. Supposément, un homme qui est adultère va voir un psychologue. Le psychologue va lui dire... Comment tu te sens là-dedans? Parce qu'il me sent coupable. Donc, il va essayer d'enlever la culpabilité pour qu'il soit heureux. Parce qu'il est adultère, mais il n'a pas l'intention de revenir avec son épouse. Là. Donc, le psychologue va travailler beaucoup. Il va respecter son choix. Il va travailler beaucoup. Le psychologue non-croyant, tu veux dire, va travailler pour qu'il se sente coupable, qu'il soit bien dans ce qu'il fait. OK? Si on va voir un psychologue qui est pro-mariage, ben là, ça va être différent. Un autre verset dans Juges 17, 6. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et le roi était le représentant de Dieu. Parce qu'on sait qu'on avait les juges. Le peuple d'Israël a demandé, non, on veut plus de juges, on veut un roi comme les autres nations. Dieu leur a donné un roi. Et le roi était le représentant de Dieu. On sait que Salomon jugeait son peuple, David aussi. Et il y a une période où il n'y avait pas de roi. Donc, il n'y avait plus de représentants de Dieu, plus de normes. Et qu'est-ce qui se passait? Chacun faisait ce qui lui semblait bon. On pense que c'est ça. C'est Dieu n'est plus là, on fait ce qu'on pense qui est bon. Donc, si on rejette Dieu, il n'y a plus de normes. Il n'y a plus de normes morales, plus de standards. Le 5 avril 2016, lors d'une entrevue à la radio chrétienne en France, un évêque, l'évêque de Pontoise, a fait une déclaration sur la pédophilie. Il a dit, l'évêque de Pontoise, « La pédophilie est un mal. » Jusque-là, ça va bien. « Est-ce que c'est de l'ordre du péché? » Ça, je ne saurais pas dire. C'est différent pour chaque personne. Ça a choqué les victimes de pédophilie. Donc, on sait tous que c'est mal, pédophilie. Mais, dépendamment des personnes, il y en a pour qui c'est péché, d'autres ça ne l'est pas. Hey, c'est un évêque catholique qui a dit ça, là, un représentant. Il s'est repris par après devant l'atelier qu'il a soulevé. Il s'est excusé, il s'est expliqué. Mais on voit la tendance à dire que ce qui est péché pour toi ne l'est peut-être pas pour moi. Et la pédophilie ne serait pas péché pour certaines personnes. C'est horrible de dire ça. Et ça nous amène à ce qu'on appelle le relativisme moral. C'est quoi cette bébite-là? C'est que tout est relatif au niveau moral. Il n'y a plus de standard. Donc, puisqu'on rejette la parole de Dieu, il n'y a plus de standard, de notion du bien et du mal, et tout revient à goût personnel. C'est moi qui fais mes valeurs. OK? Le bien, c'est ce qui me fait du bien. Il me permet de m'épanouir. Puis mes besoins, c'est ça qui est le fondement de mes valeurs. Qu'est-ce qui répond à mes besoins? Ce sont les sentiments et non la raison qui déterminent la base du comportement. La moralité est maintenant déterminée par les médias et par le consensus populaire. Tout le monde le fait, fait le don. Tout le monde dit que c'est correct. Donc, on entend parler aujourd'hui, même dans la bouche de notre premier ministre, le concept de l'acceptabilité sociale. L'acceptabilité sociale. Si la société est d'accord avec ça, ça a bien de l'allure. Ça a bien de l'allure. Et le législateur adopte des lois pour entériner ce que la majorité des gens considèrent comme correct. La société évolue, entre guillemets. On change la loi pour s'adapter aux nouvelles réalités. Hier, vous voyez ça sur Internet, la nouvelle Radio-Canada, 3200 personnes en Angleterre, des Britanniques, se sont dévêtues, se sont peinturées en bleu pour une œuvre d'art. C'est beau, c'est de l'art. On dirait qu'on a de l'art, on peut tout se permettre. Donc, ils étaient déguisés en bleu, ils faisaient un lien entre leur ville et la mer. C'était vraiment... En tout cas, donc, les gens, il n'y a plus de moralité. Là. 3200 personnes qui se déshabillent ensemble, on les voyait de loin, là, mais pour une œuvre d'art qui se peinture en bleu. Donc, la moralité est très, très loin. C'est loin du plan de Dieu. Ensuite, nous avons un verset dans Ésaïe, chapitre 5, verset 20, qui dit « Quel bonheur, quel malheur, pardon, de voir ces gens qui déclarent bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. » Et c'est ça qu'on a aujourd'hui. On appelle le mal bien et le bien mal. Une autre citation de M. Alfred Kuhn, que j'aime bien. Il dit « Une responsabilité morale est un non-sens sans une instance morale devant laquelle on se sent responsable. » Donc, s'il n'y a pas de Dieu ou s'il n'y a pas d'instance supérieure qui on doit être responsable ou rendre compte, que ça donne d'avoir une morale. OK? La deuxième ligne, troisième pour vous. En fin de compte, si la Bible n'est qu'un tissu de légende, c'est-à-dire que c'est pas vrai, je n'ai pas besoin de prendre au sérieux ce qu'elle dit du péché. Si la Bible n'est pas vraie, c'est ça que je voulais moi avant parce que j'aimais pas ça quand je lisais ça, ça me disait que j'étais pécheur, il fallait que je change. Si la Bible n'est pas vraie, pas besoin de prendre au sérieux qu'est-ce qu'elle dit du péché, du jugement et de l'obligation de répondre de mes actes devant un Dieu qui n'existe peut-être même pas. Donc, je n'ai pas besoin de répondre de mes actes. Si la Bible n'existe pas, n'est pas vraie et Dieu n'existe pas. Donc, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Je vais vous donner quelques exemples dans notre société qui découle de ce l'immoralité. Et il y en aurait des dizaines. On peut parler, Dieu a dit, tu ne tueras pas. Tu ne tueras point. Et nous avons malheureusement l'avortement qui est là depuis longtemps. Que l'avortement, on va nous dire, c'est pas un meurtre, c'est une interruption de grossesse. La femme, c'est son corps, elle peut faire qu'est-ce qu'elle veut avec. OK? C'est mieux de ne pas avoir d'enfant qu'avoir un enfant handicapé à la charge de la société, à la charge de ses parents, handicapé physiquement ou mentalement. Puis on ne tue pas un enfant naître parce qu'il n'existe pas, dans le fond, c'est un fœtus. Juridiquement, là, il existe quand il sort du ventre de sa mère. Donc, c'est pas une personne. Donc, on ne tue pas une personne. Donc, plein de raisons. Et Donc, ma liberté et mon bonheur passent avant mes responsabilités. Mais je sais que la plupart des femmes qui se font avorter ne sont pas conscientes de qu'est-ce qu'ils font, que c'est un être vivant qui est en eux. Et je veux pas mettre de jugement ou qu'ils se sentent coupables. Et il y a beaucoup de femmes qui ont subi des avortements alors qu'ils n'étaient pas conscients de la gravité de leur geste. Et je veux pas mettre un fardeau sur elles ici. Et personnellement, moi, avant d'être croyant, je croyais que c'était correct, l'avortement. Mais je n'avais pas poussé l'idée plus loin que ça pouvait être un être vivant, ça. C'est bizarre, hein? Comment je pouvais être fermé sur des réalités? Et Dieu m'a ouvert les yeux. Donc, je ne veux pas que vous sentiez jugé. Et si vous dites, oh, c'est trop gros, Jésus ne me pardonne pas, Jésus dit, celui à qui on a pardonné beaucoup va aimer beaucoup. Mais c'est pas si gros que ça. Dieu est capable de tout pardonner, tout effacer. Il ne s'en souviendra plus, dans le sens qu'il n'y en tiendra pas compte. Okay? Ensuite, on parle de la fécondation in vitro. C'est à partir d'ovules de la mère, d'un sperme du père, on met ça dans une éprouvette, et on crée un embryon. On crée la vie. Et on implante un ou quelques embryons, puis on congèle le reste, ou on va les jeter. Mais problème éthique, là, c'est de la vie qu'on vient de créer, là. Et parce qu'on en crée toujours plus que qu'est-ce qu'on a besoin. Okay. On peut parler aussi de, tu ne tueras point, l'aide médicale à mourir. C'est un nom politiquement correct pour l'euthanasie. Mais on va nous parler de l'importance de mourir dignement, de ne pas être diminué, perte de capacité. C'est sûr que c'est humiliant, hein. Tu sais, plus dedans, là, puis tout comme ça, là, puis ils changent nos couches. C'est vraiment humiliant. J'aimerais pas me rendre là, mais peut-être. Puis on veut pas souffrir. C'est moi mon corps, c'est moi qui décide quand je vais mourir. Et aussi, ça coûte cher, le gouvernement, ça coûte cher de prendre soin des personnes gravement malades. Et ma mère, elle a 89 ans, ça fait au moins 5-6 ans qu'elle ne nous reconnaît pas, elle ne voit pratiquement pas. Et humainement parlant, on pourrait dire, ouf, la qualité de vie, là, tu sais. Mais c'est le Seigneur qui nous donne la vie, et c'est lui qui va décider quand. Et aujourd'hui, on a des soins palliatifs qui peuvent, dans la majorité des cas, enlever les souffrances lors de la mort. Ça ne veut pas dire qu'on ne souffrira pas ou qu'on ne sera pas diminué dans notre estime de nous-mêmes, dans notre dignité. Notre orgueil est bien important. Mais c'est quand même... Dieu défend cela. Nouvelle Radio-Canada, le 6 juillet 2007, ça fait pas longtemps, on a dit que 6 mois après l'entrée en vigueur de la loi concernant les soins de vie, au Québec, il y a 166 personnes qui ont bénéficié de l'aide médicale à mourir. 166. Et ce nombre est 2 fois plus élevé que ce que les spécialistes avaient prévu. Okay. Aussi, en 1949, 4 ans après la fermeture des camps de concentration nazis, il y a un psychiatre américain, Leo Alexander, qui a fait un article qui s'appelait « La science médicale sous la dictature », puis il dressait l'historique du mouvement de l'euthanasie nazie. Okay? Et il se demandait, il étudiait pourquoi des médecins, des spécialistes respectés avaient pris part à des atrocités sur les Juifs pendant la dernière guerre mondiale. Et je ne vous citerai pas ça au long, mais ce qu'ils disent, c'est que les médecins avaient adhéré à l'idée qu'il y avait des vies qui ne valaient pas la peine d'être vécues. Donc, ceux-là, on pouvait les euthanasier. Les autres-là, ils n'ont pas, de qualité de vie, donc on peut les euthanasier. Petit à petit, mais ils ont commencé par les malades atteints de maladies chroniques graves, qui souffraient beaucoup, juste ça. Mais l'éventail s'est élargi, puis ils ont dit, bien, ceux qui sont improductifs à la chair de la société, peut-être, hein? Puis ensuite, ceux dont l'idéologie et la race les rend indésirables. Ici, on touchait les Juifs. Témoins de Jéhovah, certains chrétiens qui défendaient les Juifs. Donc, ils ont comme... Et qu'est-ce qu'il disait, lui, l'auteur? Il disait, il est important de se souvenir que le minuscule levier qui avait donné son impulsion à tout ce courant de pensée avait été l'attitude envers les personnes incurables. Donc, ça a commencé avec juste les personnes incurables. On va les euthanasier. Puis, maintenant, oups, ça a été plus loin. Donc, c'était un pied dans la porte. Actuellement, au Québec, au Canada, on met un pied dans la porte, et c'est sûr que ça va aller plus loin. Cette semaine, une madame, on a vu son histoire, là, il restait un an à vivre, elle avait multiples cancers. Un an. Je veux pas souffrir, je veux pas être diminué, je veux avoir l'aide médicale à mourir, les médecins ont refusé. Je mange plus. Après quelques semaines, il n'a pas eu le choix, là. T'sais. C'est qu'il a, actuellement, elle est partie, oh, c'était beau, elle est morte en dignité, t'sais. Souvent, on voit les témoignages, ça. C'est quand même, c'est quelque chose. Ensuite, une autre chose, immoralité, sexualité en mariage. Des fois, il me dit, devrais-tu en parler? C'est comme normal aujourd'hui. T'sais, on va passer pour un dinosaure. Le déclin moral d'une société entraîne le déclin au niveau sexuel. Il y a 50 ans, c'était mal vu d'avoir des relations en mariage. Il y en avait, mais les gens se cachaient. Quand la madame tombe enceinte, elle allait accoucher à l'intérieur de sa paroisse et elle revenait plus tard, mais souvent c'était un parent qui adoptait l'enfant, on le savait plus tard. Et aujourd'hui, les relations en mariage, c'est comme la norme. La norme. Et les gens qui sortent ensemble, qui n'ont pas de relations sexuelles, sont vus comme bizarres. Mon épouse et moi, lorsqu'on s'est fréquentés, on était chrétiens, et qu'est-ce qu'on nous enseignait, et qu'est-ce qu'on enseigne encore aujourd'hui, c'est que pour les relations sexuelles, tu dois attendre d'être marié, attendre qu'il y ait un engagement solide devant Dieu, devant les hommes. À ce moment-là, oui, tu peux avoir des relations. Et on est resté pur par la grâce de Dieu, il nous a soutenus. Et c'est pas parce que ça fait 36 ans. Dans ce temps-là, on a vécu la révolution tranquille, le peace and love, l'amour libre. On est un peu après les Beatles. Et dans le fond, c'était ouvert. Même mes parents, qui étaient à la mode, quand Marjolaine est venue chez nous à Gaspésie, les autres, ils pensaient qu'on coucherait dans la même chambre. Ils étaient surpris qu'on n'était pas dans la même chambre. Donc mes parents avaient début de soixantaine à ce moment-là. Donc, aux yeux du monde, on est vu comme bizarre, la chasteté avant le mariage. Mais Dieu le demande, et on ne le regrette pas du tout. Hein? On ne le regrette pas du tout. Parce que oh, mon épouse sait que je suis capable d'un certain contrôle. Moi, je sais qu'elle aussi. Donc, ça augmente la confiance dans le couple. Une des raisons. Il y en a plein d'autres. Maintenant, comme chrétien, face à la sexualité, je vous montre une pyramide. Ça, c'est le plan de Dieu dans le mariage. Donc, on commence par en bas de la pyramide, on connaît Dieu, connaissance de Dieu, on devient chrétien. Ensuite, on se rencontre, on se connaît l'un l'autre. Ensuite, on crée une intimité émotionnelle. On s'engage. Le mariage et l'engagement, là. Ensuite, vient la sexualité, qui est la cerise sur le sundae. Mais c'est ça qui vient en dernier. Okay? Donc, on commence toujours par la connaissance de Dieu, connaissance l'un de l'autre, intimité émotionnelle. Ça, c'est le plan de Dieu. Le plan du diable, il est à l'envers. On commence toujours, habituellement aujourd'hui, par la sexualité. On se rend compte, c'est pas le premier soir, le deuxième soir, mettons, on va attendre une semaine, mais il y a la sexualité qui vient en premier. Le mariage, une fois sur deux. L'engagement, ça va avec le mariage. L'intimité, on peut l'avoir. Connaissance l'un de l'autre et connaissance de Dieu, mais souvent c'est oublié. Donc, vu que la pyramide plante de Dieu est à l'envers, la base, si la base n'est pas solide, et si la base ne marche plus, si ça ne marche plus au niveau sexuel, qu'est-ce qu'on fait? On recommence ailleurs une autre pyramide à l'envers. OK? Mais si la base était la connaissance de Dieu, relation avec Dieu, c'est solide, ça tient solide. Même si un problème au niveau sexuel, on tient bon quand même, on continue, on persévère. Mais si la pyramide est à l'envers comme ça, ça explique pourquoi on butine aujourd'hui d'une relation à l'autre. Pyramide à l'envers. Aussi aujourd'hui, on a des mariages de personnes du même sexe. Habituellement, un mariage, c'est deux personnes ou deux choses différentes, deux personnes différentes. Donc, pourquoi pas donner les mêmes droits aux couples hétérosexuels? Donc, c'est ça que le législateur a fait. Ensuite, il y a le mot sexualité. Je vais revenir un petit peu pour vous garder. Bon, OK. Plan de Dieu. Le mot sexualité, j'hésite à en parler, mais je vais vous demander d'écouter jusqu'au long. Même ceux qui écoutent sur Internet, là, pour pas me citer, mal citer qu'est-ce que je vais dire, parce que je vais essayer d'être, de mettre la table là, pour vous faire comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu dit. S'il est un sujet chaud, c'en est un. Il y a un défilé gay aux nouvelles à chaque fin de semaine, surtout l'été. Autrefois, au Canada, la pratique de l'homosexualité était un acte criminel. Quelqu'un allait en prison si il y avait une relation, un homme avec un homme, il méritait la prison. Est-ce que ça mérite la prison? Non. Et ça a été décriminalisé. Je me souviens, c'est Pierre-Elliott Trudeau, dans les années 70, il appelait ça le Bill Omnibus. Il y avait plein de choses là-dedans, dont le fait de décriminaliser l'homosexualité. Relation sexuelle entre deux adultes du même sexe consentant, c'est pas un crime. On n'envoie plus les gens en prison pour ça. Je suis d'accord avec ça. Et il y a quelques années, c'était honteux de s'afficher homosexuel. Aujourd'hui, on veut en faire une fierté. On voit qu'on est allé d'un bout du pendule à l'autre. Okay? Il y a un socio-anthropologue britannique qui a étudié la montée du déclin de 80 civilisations dans le monde. Et sa conclusion, le déclin d'une civilisation est étroitement lié au dérèglement du comportement sexuel. Mais je ne parle pas ici uniquement de l'homosexualité, ça peut être la prostitution, ça peut être relations hors mariage, et toutes les pratiques sexuelles qui ne sont pas bibliques. Donc, quand une société va pas bien, la sexualité prend le dessus. OK? D'après la Bible, l'homosexualité est contre nature et est considérée comme péché. Dans certains milieux évangéliques, l'homosexualité n'est pas considérée comme un péché parce qu'on affirme que cela est dans leur nature, ils sont nés comme cela. Okay? Donc, pour eux, ce ne serait pas relation contre nature. Quelle position prendre? Que dit la parole de Dieu? Si on s'en tient à la loi de Moïse, on ne s'en tiendra pas là, mais selon la loi de Moïse, on devait lapider quelqu'un qui avait une pratique homosexuelle, comme on lapidait quelqu'un qui était adultère aussi. OK? Nous ne sommes plus sous la loi. Nous ne sommes plus sous la loi. OK? Je vais vous citer un verset. Maintenant, nous sommes dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 9 et 10. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? » Donc, ici, Paul, il dit, « Voici les personnes qui n'iront pas au ciel, parce que c'est péché ce qu'ils font. Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, donc ça comprend toute relation sexuelle hors mariage, ni les idolâtres, c'est-à-dire quelqu'un qui fait passer quelque chose avant Dieu, ni les adultères, on sait c'est quoi, ni les dépravés, ni les homosexuels, ça apparaît ici, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, insulteurs, ni les accaparants, n'hériteront le royaume de Dieu. » Donc ici, on voit l'homosexualité et ça dit, si tu te tiens à cela, c'est un péché, tu n'iras pas au ciel. Mais il ne se limite pas à ça, là. Okay? Il se limite aux adultères, aux voleurs, toute relation sexuelle hors mariage. Okay? Maintenant, ceci dit, qu'est-ce que Jésus a dit à la femme qu'on voulait lapider pour adultère? On se souvient de l'histoire dans Jean chapitre 8. Les pharisiens, les scribes, ont amené en foule devant Jésus une femme qui avait pris en flagrant délit d'adultère. Puis on dit, qu'est-ce que la loi de Moïse nous dit qu'il faut la lapider. Toi, qu'est-ce que tu dis? Jésus, vous vous souvenez, il est créateur. Puis il a dit, que celui d'entre vous qui est sans péché lance la première pierre. Et petit à petit, ils sont partis, commençant des plus vieux jusqu'aux plus jeunes. Ensuite, Jésus s'est retrouvé tout seul avec la femme. Jean 8, versets 10 et 11. Alors Jésus se redressa et lui dit, « Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné. » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pèse plus. » Donc, on veut être comme Jésus. OK? Et Jésus n'a pas méprisé la femme comme personne. Il n'a pas dit, ah, c'est pas correct ce que tu as fait, c'est dégradant, pour ça ton mari, tes enfants. Il ne l'a pas abaissé. Il a dit, je te condamne pas. Cependant, ne pêche plus. OK? Donc, il ne l'a pas méprisé. Qu'est-ce que Jésus dirait aux homosexuels? Je pense, si ça avait été un homosexuel qu'on avait amené devant Jésus, au lieu de l'adultère, qui est pris en flagrant délit d'homosexualité, Jésus aurait fait la même chose. Je te condamne pas. Bon, il ne pêche plus. Donc, c'est le péché ici. Là. Donc, c'est pas la personne comme telle qu'on doit mépriser. Donc, Jésus aurait répondu ça. Personnellement, depuis que je suis chrétien, j'ai changé d'attitude vis-à-vis des personnes qui sont homosexuelles. Quand j'étais pas chrétien, c'est comme, je disais, c'est con. Pour moi, le fait que c'était contre nature, c'était pas correct et j'avais de la haine et du mépris. Je le manifestais pas ouvertement, mais j'avais du mépris dans mon cœur et de la haine. Quand je suis devenu chrétien, Jésus m'a donné son cœur, donc je vois avec les yeux de Jésus comment Jésus réagirait. Jésus dit, je te condamne pas. Jésus ne dit, va et ne pêche plus. Jésus l'a respecté comme personne. Mais c'est sûr que si elle continue à pécher, c'est elle-même qui va se condamner, okay? La femme adultère. Donc, merci Jésus de m'avoir changé, de m'avoir donné ta pensée à toi, de m'avoir donné de l'amour et d'avoir enlevé la haine qu'il y avait dans mon cœur vis-à-vis les personnes qui se disent homosexuelles. Et en passant, les personnes homosexuelles que je connais sont la plupart des gens très corrects, gentils, à leur place. C'est surprenant. Ben, c'est pas surprenant. C'est des gens comme nous, OK? Et j'ai des amis que j'ai pu connaître au travail. Et dans notre famille, ça peut être un frère, une sœur, un cousin, une cousine, notre enfant, qui est homosexuel, OK? Donc, on a tous des connaissances. Et ce sont des gens qui sont qu'on doit respecter. Comme quelqu'un qui commet l'adultère, on ne rejette pas, mais on lui dit « Oups, si tu continues là-dedans, c'est un péché. » Et quelqu'un, qu'on a vu tout à l'heure, l'idolâtrie, là, que tout passe avant Dieu, ben, c'est un péché aussi. OK? Ça conduit, ça l'éloigne de Dieu, ça se sépare de Dieu, ça le conduit en enfer. Et laissez-moi vous dire que comme chrétien évangélique, on a quelque chose de commun avec les personnes homosexuelles. On sait que malgré les défilés gays, la fierté gay, les homosexuels ne font pas l'unanimité et ils doivent affronter ce qu'on appelle l'homophobie. C'est-à-dire le mépris, rejet des autres, la haine envers les personnes homosexuelles. Et nous, comme croyants, comme chrétiens, on fait pas l'unanimité non plus. Et on doit affronter parfois le jugement et même la persécution. Parce que les gens, ils nous trouvent, ils nous disent pas, mais ils nous trouvent bornés, pas intelligents de croire à la Bible, croire à la création. OK? Et on est marginaux. Et on vit de l'incompréhension. Donc, à ce niveau-là, on est marginaux, nous autres aussi. Peut-être plus qu'eux. OK? Donc, on le sent en commun. Donc, cela dit, et malgré tout le respect qu'on doit aux personnes homosexuelles, Dieu dit dans sa parole que c'est un péché. Et ce serait un manque d'amour de leur dire que c'est pas un péché. On a, comme chrétiens, la responsabilité de leur dire la vérité comme on l'a dit à tout le monde. Et Blaise Pascal, je l'ai cité la dernière fois, disait « C'est un crime d'être silencieux lorsque la vérité est détruite. » Et c'est un péché comme l'adultère, le mensonge, le vol. Et si je dis à ma petite fille de ne pas toucher au poil parce qu'il est chaud, c'est un geste d'amour pour elle, parce qu'elle peut se brûler. Donc c'est par amour que je vais dire à quelqu'un que ses actions vont à l'encontre du plan que Dieu a créé pour lui, son Créateur a fait, qu'il y a un jugement pour ceux qui décident délibérément de vivre sans se soucier de Dieu et sans se soucier de ce que Dieu déclare comme péché. Et ça s'applique à tous les péchés, pas seulement aux homosexuels, mais à toutes les personnes qui vivent sans se soucier de Dieu. On se souvient, on va le passer le temps avant, la tour de Siloé qui est tombée sur les gens. Jésus a dit, « Pensez-vous qu'il est plus pécheur que les autres? » Jésus a dit, « Non. Mais si vous ne vous repentez pas, si vous ne changez pas de vie, de direction, vous périrez tous également. » OK? Donc, toute personne qui refuse Jésus-Christ, son plan merveilleux de salut, qui vit sans se soucier de ce que Dieu pense, de ce que Dieu dit, malheureusement, il n'y aura pas le royaume de Dieu. Toutes ces personnes-là. Okay, on ne peut pas limiter à un seul péché. Maintenant, l'application pour le croyant. Donc, puisque je vis dans une société où il n'y a plus de bien, plus de mal, je pourrais être tenté de redéfinir les standards de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? On étire les versets. On est engagé, peut-être. On est fiancé, peut-être qu'on peut avoir des relations. De toute façon, on est. Dans notre cœur, c'est sûr qu'on va continuer ensemble. Il y a plein d'autres exemples. Donc, redéfinir les standards de Dieu. On est aussi tenté de ne pas se priver de plaisirs défendus. Surtout lorsqu'on souffre, qu'on veut mettre un baume sur notre souffrance. Donc, ça peut être la pornographie, sexualité, gourmandise, alcoolisme. On va être porté à... On est incité plus à ça. Et puisque je dois être heureux, les autres doivent me rendre heureux. Et ça, je peux poser des actions égoïstes pour moi, mais qui vont être... m'ont fait souffrir les autres. Et laissez-moi vous dire que tout cela, le fait de vouloir chercher le bonheur sur terre, on ne le trouve pas. Ça ne le donne pas. Et c'est ça que je ferais si Christ n'était pas ressuscité, mais il est ressuscité. OK? Et comme enfant de Dieu, on va au-delà des choses matérielles, des plaisirs du monde, on va plus loin que ce qui est temporaire. Et je ne veux pas dire qu'on ne peut pas profiter des plaisirs de la vie. Parce que Dieu a créé toutes choses pour qu'on en profite et qu'on le remercie, qu'on lui rende grâce. À l'époque de Paul, il y avait des faux docteurs qui disaient « Vous ne pouvez même pas vous marier, puis il y a des aliments que vous ne pouvez pas manger. » Ça fait penser à notre ancienne religion. De faire se marier, puis certains aliments qu'on ne peut pas manger. Et, tiens, je vais vous dire le verset. Celui-là. Donc, 1 Timothée chapitre 4. Verset 3. Il prescrit de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et connaissent la vérité. Or, tout ce que Dieu a créé est bon. Rien n'est à rejeter pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Donc, Dieu a créé des bonnes choses qu'on peut profiter sur la terre. Si vous prenez un verre de vin en mangeant, c'est pas de l'alcoolisme, hein? Donc, ce sont des bonnes choses que Dieu a créées Donc, je ne veux pas être prêché comme un ascète qui dit « privez-vous, privez-vous ». OK? Mais lorsqu'on prend les choses que Dieu nous donne, si on est capable de le remercier pour ça, « Merci Seigneur, pour ce que tu me donnes, c'est bon signe. » OK? Un verset dans Romains, chapitre 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au monde présent. » Donc, c'est une exhortation de Paul à ne pas se conformer au monde présent. « Mais soyez transformés. » Ici, « transformés », c'est le mot... nous voyons aujourd'hui le mot métamorphose, un peu comme un têtard devient une grenouille, okay? Il est métamorphosé, ou la chenille devient un papillon. Donc, transformé, mais ça va être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Donc, c'est un peu ça que j'essaie de faire là, en regardant ces choses-là, renouveler notre intelligence. Et le Seigneur le fait, il renouvelle notre esprit par son esprit, mais en ayant une connaissance de certaines choses, ça renouvelle notre intelligence. Afin que vous discerniez. Tout à l'heure, on a parlé, prenez garde d'être séduit. Ici, on parle de discernement. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Donc, discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On pourrait dire discerner entre le bien et le mal. Ça pourrait être ça aussi. Donc, ne vous conformez pas au monde présent. C'est un autre verset ici que je ne lirai pas au long. On voit que la grâce de Dieu dans 2 Timothée 2, versets 11 à 14, la grâce de Dieu nous a donné le salut. OK? Puis verset 12, il nous enseigne à renoncer à l'impiété et à vivre. Il y a positif, négatif. Puis on voit au verset 14, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. Le fait qu'on veuille faire le bien, obéir, c'est quand on voit le prix que Jésus a payé. Le prix que Jésus a payé pour nous racheter, ça nous dit, oups, là, c'est grave le péché. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le prix qu'il a payé, ça nous incite, son amour nous presse à dire, ouf, ça nous motive à faire le bien, à se détourner du mal. Donc, c'est pas quelque chose qui vient de nous, qui est forcé, là, mais c'est Jésus qui va le produire en nous. Et, à cause de son amour nous presse à faire le bien. OK? Et je termine en parlant de mon exemple de tout à l'heure dans la vitrine. Les personnes qui arrivaient dans la vitrine, au lieu de voir l'autre bord, ils se voyaient. OK? Personnellement, quand je regarde dans la vitrine de ma vie, qu'est-ce que je vois? Est-ce que je vois seulement ma personne? Ou je vois celui qui est là, mais que je vois, ou je discerne celui qui est là, mais que je ne vois pas physiquement, mais qui est Dieu? Donc Dieu est de l'autre côté de la vitre, il est là, mais je le vois pas. Mais il est là. Donc moi, l'homme, habituellement, voit juste la vitre, son reflet. Moi, est-ce que je vois juste mon reflet, mes idées, mes pensées, mes valeurs, ou je sais que Dieu est là aussi? Mais ça, c'est différent. C'est différent. Donc, Dieu est présent. Donc, je vous invite simplement à regarder au-delà des choses visibles. Qu'est-ce qu'on voit, c'est temporaire. C'est beau. Merci Seigneur de nous le donner, mais c'est temporaire. Un jour, on va avoir un nouveau ciel, une nouvelle terre. Ça va être merveilleux. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Est temporaire. L'invisible demeure. Dieu est invisible, mais éternel. Un jour, on va le voir face à face, Jésus. Et en plus, il nous aime. Jésus nous aime plus qu'aucune autre personne sur terre ne sera jamais capable de nous aimer. Si vous voulez, on va prier. Les gens de la louange peuvent avancer. Notre Dieu, on veut te remercier pour ces enseignements dans ta parole qui nous permettent de discerner entre le bien et le mal. Merci au Dieu de ne pas nous avoir laissés orphelins. Merci de nous avoir sauvés, de nous avoir ramenés à toi et de nous avoir donné aussi ton écriture, ta Bible, ta parole, ta lettre d'amour pour nous, ta lettre dans laquelle tu mets tes standards, parce que c'est vraiment un guide solide. Et Seigneur, où irions-nous? Car c'est toi qui as les paroles de la vérité. Merci Seigneur, dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci beaucoup.